Et oui, il y a 340 ans tout juste était inauguré le canal du Midi. Retour sur cet événement ce matin avec mon invité, l'historien Nicolas Marquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Vous êtes également l'auteur d'un petit livre sur le canal du Midi. C'est dans la collection cette année-là aux éditions Midi-Pyrénées. Alors nous, l'année qui nous intéresse, c'est 1681, le 15 mai plus précisément. C'était donc il y a 340 ans. Le canal du Midi était inauguré. Nicolas Marquet, comment est-ce qu'elle s'est passée cette inauguration? Est-ce qu'on a des informations là-dessus?
Alors oui, il nous reste des témoignages pour voir que bien, cette inauguration, c'est une grande réjouissance. Hein. On a les représentants du roi, notamment l'intendant, on a les représentants des grandes assemblées provinciales, ce qu'on appelle les états provinciaux, on a l'archevêque, donc officiellement ce sont de grandes réjouissances, mais c'est sur fond de soupçons, c'est-à-dire que l'employé du roi, l'intendant, ben, il est aussi là pour inspecter les travaux, pour vérifier que tout est bien fait, donc il prend beaucoup de notes, hein. il regarde et il voit bien que Riquet n'a pas pu tout terminer de son vivant, et il y a beaucoup de choses qui manquent, il y a des quais qui devraient être en briques, qui sont en planches, il y a tout un tas de choses. De même, on a quelques petites tensions lors de l'inauguration avec les capitouls, vu que Riquet leur a pris une partie de leur terre, donc le canal est devenu une seigneurie, donc les terres toulousaines des capitouls, ben, une partie est donnée à la famille Riquet. Donc les capitouls eux-mêmes n'ont pas boudé l'inauguration, mais ils ont carrément éloigné le canal de Toulouse. Il aurait dû passer dans les boulevards actuels, hein, devant les remparts de l'époque.
Alors il va falloir nous expliquer ça d'ailleurs, Nicolas Marquet. Pour quelles raisons Riquet est devenu seigneur? Il a été anobli par le canal d'une certaine manière. Hein. Riquet qui n'est pas là à l'inauguration puisqu'il est décédé l'année d'avant, mais seigneur du canal, c'est-à-dire?
Alors, c'est-à-dire que dès que Colbert et dès que Louis XIV ont accepté le projet de Riquet, on a fait un donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on a dit à Riquet qu'il devrait en partie investir de sa propre fortune, hein, dans la construction du canal.
Il paye de sa poche.
Voilà, il paye de sa poche, hein, et Riquet finira ruiné. Il devra lui-même, d'ailleurs, donner la dot de ses filles pour réussir à finir presque le canal. Enfin, même s'il a jamais vu la fin des travaux. Ce sont les enfants de Riquet qui, eux, deviendront richissimes grâce à l'exploitation du canal. Mais quand Riquet meurt, ben, l'ouvrage n'est pas totalement fonctionnel et les dépenses sont là, mais pas encore les recettes.
Alors vous nous dites que c'était du donnant-donnant, c'est-à-dire?
Alors c'est-à-dire que d'un côté, Riquet obtenait le droit de percevoir des péages, ce qui s'avérait sans doute très lucratif, même s'il ne le savait pas encore, et il devenait seigneur, donc il allait avoir une seigneurie à lui, une seigneurie très très particulière, hein, vu qu'elle est très longue, elle va de Toulouse à la Méditerranée, et elle a une largeur très très faible, hein, ça correspond au canal et à ce qu'on appelle les francs-bords, donc les chemins qui sont autour, sur lesquels on met des chevaux pour tirer les bateaux quand besoin est. Et le donnant-donnant, c'est que le roi, de son côté, bien récupère un ouvrage qui va permettre de développer l'économie de la France, mais surtout qui doit permettre de rabaisser la rivale de la France, qu'est l'Espagne, et qui profite de la navigation par Gibraltar.
Et oui, on va y venir à cet objectif du canal. Restons un petit peu sur ces capitouls qui donc voient ce Riquet anobli par le canal d'un mauvais œil. Il leur pique un peu de seigneurie, et c'est ce qui explique d'ailleurs le tracé du canal, je crois, hein.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bien comme ce Riquet bien, va prendre des terres à de nombreux seigneurs, hein, sur le tracé du canal, ben, dès le début, il est détesté par tous les seigneurs locaux, y compris les capitouls, étant donné que ben, il leur prend un bout de leur terre, il leur prend un bout de leur seigneurie. Et donc les capitouls vont tout faire pour essayer, alors ils n'ont pas de résister, ils peuvent pas résister à un ordre du roi. Mais ils vont mettre des bâtons dans les roues de Riquet, ils vont parfois essayer d'usurper le fait de rendre justice sur le canal qui était donné à Riquet en tant que seigneur. Ben, les capitouls vont quand même tenter de lui prendre ça. Ils vont tenter d'envoyer le canal le plus loin possible des murs de Toulouse, alors en prétextant des dangers d'inondation qui sont complètement fantasmés. Mais l'idée est vraiment de montrer à ce Riquet qu'on ne l'aime pas.
On l'aime pas. Donc une inauguration, vous le dites, hein, en demi-teinte sur fond de dettes, de grandes pompes prévues par Riquet qui n'est pas forcément au rendez-vous. Il a fini comme il a pu, et donc c'est Capitoul fâché. Pas tellement mieux du côté populaire d'ailleurs, je crois. Il n'était pas plus populaire du côté du peuple, Riquet, avec son métier de gabellier, je crois. Hein.
Alors. Initialement, quand il commence le canal, Riquet est assez impopulaire, étant donné que comme il perçoit les gabelles, donc l'impôt sur le sel notamment, eh bien, il se retrouve très largement à prélever de l'argent sur le dos du peuple, à faire des profits sur le dos du peuple, hein, grâce à son métier, et à devenir immensément riche grâce à ça. Donc, il pratique un métier qui est détesté à l'époque, ce genre de personnes, on appelle ça les serpents à l'époque, mais Riquet va devenir plus populaire pendant le chantier du canal.
Pour quelle raison ?
Parce que Riquet a bien traité ses ouvriers, il les a bien payés. Alors, notamment parce qu'il voulait absolument maintenir les ouvriers sur le chantier du canal, et il avait très peur qu'au moment des moissons, au moment des travaux des champs, ben, les ouvriers désertent le chantier du canal et aillent faire les moissons. Et donc, c'est pour ça qu'il leur a donné notamment de bonnes conditions de travail et un salaire, alors certes, qui n'était pas mirobolant, mais qui était supérieur à ce que le menu peuple de l'époque pouvait gagner. Donc,
il a
redoré un peu son blason pendant la construction du canal.
Alors, l'objectif de ce canal, vous avez commencé à nous le dire, on a tendance à penser qu'il s'agissait de façon économique à rejoindre la Méditerranée et l'Atlantique. Ça n'est pas que ça, hein.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a aussi des raisons politiques et des raisons de prestige. Donc Louis XIV, qui est roi à l'époque, il veut absolument renouer avec une grande tradition qui est la tradition des rois bâtisseurs. Donc par exemple François Ier avec les châteaux de la Loire. Et donc Louis XIV est en grande admiration devant cela. Son père Louis XIII n'a pas été un bâtisseur. Mmh. Il veut renouer donc avec la tradition. Donc vous avez tout un mouvement de construction. Bon, Versailles est la plus célèbre.
Évidemment.
Mais le canal, qui à l'époque s'appelle Canal Royal de Languedoc, fait partie de ces grandes constructions que Louis XIV a voulu voir dans son règne. Et autre raison politique, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, Louis XIV veut rabaisser sa grande rivale qui est l'Espagne. Et donc l'Espagne profite du commerce qui passe par Gibraltar. Donc si on ouvre ce canal, eh bien potentiellement on peut détourner le commerce qui quitte la Méditerranée par Gibraltar, et on peut le faire passer par le canal. Donc on rabaisserait la rivale éternelle de la France à l'époque. Donc vous voyez, encore une fois, une raison politique.
Alors le creusement de ce canal, en réalité, c'est une vieille idée, je crois, hein.
Alors c'est un projet qui est très ancien, on le trouve dans l'Antiquité romaine, donc on le trouvera sous Auguste, on le trouvera sous Néron, hein, donc vraiment vous voyez que déjà aux alentours de l'an 0 et sans doute bien même avant, on a déjà cette idée, on la retrouve sous Charlemagne, on la retrouve sous François Ier, mais le gros problème, c'est l'alimentation en eau, c'est-à-dire que creuser le canal, ça c'est pas un problème de creuser, mais réussir à l'alimenter, ça, personne n'a réussi à relever le défi.
Et alors, comment est-ce que Riquet l'a relevé ? À quoi a-t-il réussi là où d'autres ont échoué ?
Alors, déjà, Riquet, c'est en partie un régional de l'étape. C'est-à-dire que, la famille Riquet est de Béziers, mais il connaît très bien la montagne Noire. Il l'a beaucoup arpentée, et donc il connaît les points de partage des eaux. Et donc, étant donné qu'il connaît les points de partage des eaux, il va être capable, d'abord il le fait à échelle réduite, hein, il fait ce que nous on pourrait appeler une maquette, si vous préférez, donc il va être capable de trouver différents cours d'eau qui vont permettre de faire des lacs de retenue et de pouvoir alimenter le canal en eau, autant du côté qui descend vers Toulouse que du côté qui descend vers la Méditerranée.
Et alors, avec ce seuil de Naurouze, hein, qui est le point de partage, je crois, entre les deux. Hein.
Oui, tout à fait.
Et alors, vous nous dites que Riquet est un gabelier, il perçoit la gabelle. Comment est-ce qu'il est arrivé à ce projet de chantier, de canal ? Pourquoi lui ?
Alors, on a à l'époque une grande vogue, qui est la vogue des mémoires pour résoudre de grands problèmes. C'est-à-dire que quand on a un souci, par exemple assainir une ville, créer ce que nous on appellerait un réseau d'égouts, créer des fontaines, eh bien on va proposer, on va faire ce qu'on pourrait appeler des concours si vous préférez. Mm-hmm. Donc on va proposer un concours en disant voilà, faites un mémoire, faites un petit ouvrage qui va nous proposer une solution à un problème qu'on a. Et donc, il est très fréquent que ce que nous appellerions des amateurs éclairés réfléchissent à de grands problèmes anciens. Et donc, celui qui trouble beaucoup Riquet, c'est cette question du canal. Donc, il n'est pas ingénieur de formation, hein. C'est, comme vous l'avez bien dit, c'est un gabelou, c'est un manieur d'impôts, c'est un manieur d'argent.
Un serpent.
Et donc, il va s'y intéresser. Il va vraiment creuser cette idée, notamment dans une idée de relever un défi qui est là depuis l'Antiquité et que personne n'a réussi à relever.
Et donc le petit Riquet de la Montagne Noire monte à Versailles, voit Louis XIV et lui dit « moi je vais le faire ». Et Louis XIV dit « feu, on y va », c'est ça ?
Alors, c'est un peu plus compliqué, mais l'idée de fond est bonne.
Il n'a pas dit feu, alors, peut-être.
Voilà, non, Louis XIV ne dit pas feu. Mais donc, c'est d'abord à la porte de Colbert qu'il faut frapper. Donc, Colbert qui va s'occuper très largement
charge
de la gestion financière.
Ouais.
Voilà. Et Colbert, pendant très longtemps, reste très sceptique. C'est-à-dire que, bon, d'une part, c'est un problème, okay, si on ne l'a pas résolu depuis l'Antiquité, c'est quand même un problème très délicat. Et Colbert, il a toujours un peu de mal à faire confiance, vu les sommes en jeu, on peut le comprendre.
Les sommes, pardonnez-moi, je fais une interruption, oui. Je vous interromps. On a une idée du prix qu'a coûté le canal du Midi ?
Alors, ce serait très difficile de donner un chiffre exact. Par contre, ce dont on est certain, c'est que c'est le deuxième plus gros chantier du royaume après Versailles.
Ah oui.
Moi, je vous dirais qu'on est sur le troisième grand poste de dépenses. C'est-à-dire que vous avez d'abord les guerres de Louis XIV. Ça coûte beaucoup plus cher que Versailles. Puis, vous avez Versailles. Et ensuite, vous avez le canal.
D'accord.
Et sur le canal, on est sur des millions et des millions de livres. Alors bon, on sera loin de Versailles. Hein. Versailles, c'est 82 millions de livres pour le projet initial, mais qui sera remanié durant le règne à répétition. Mais donc, pour le canal, c'est très difficile de vous donner une estimation.
D'où le scepticisme, vous le disiez, hein, de Colbert.
Oui, tout à fait. Et alors, le scepticisme qui, d'ailleurs, est un petit peu relancé durant les travaux, étant donné que Colbert, bien, il met des inspecteurs sur le dos de Riquet, hein, donc notamment un homme qu'on appelle le chevalier de Clerville, qui est quelqu'un de très compétent, de très impartial, et qui doit régulièrement tenir à Colbert des nouvelles, et lui dire comment avancent les travaux. Et Clerville s'arrache les cheveux, parce que Riquet, très régulièrement, change son projet, il change le tracé, quand il voit une opportunité qu'il n'avait pas vue avant, qui permettrait d'agrandir le canal, de creuser plus facilement. Donc il n'arrête pas de changer de projet et il est totalement hors budget. Il demande des rallonges à Colbert à répétition. Alors bon, au début, Colbert s'y attend. Colbert sait que les travaux publics, généralement, il va y avoir des rallonges. Donc au début, il s'y attend, mais à la fin, il s'y attend plus du tout. Et à la fin, il n'en peut plus. Vraiment, là, quand Riquet meurt, Colbert ne veut plus en entendre parler. C'est pas possible.
C'est pas possible. Et alors justement, il n'aura pas vu son œuvre terminée, ce pauvre Riquet. Est-ce que le résultat est conforme à ce qu'il pouvait en attendre ?
Alors, à court terme, non. C'est-à-dire qu'à court terme, vous avez un canal qui met un petit peu de temps à trouver son public. Hein. Vous savez, à l'époque, on n'a pas la télé, on n'a pas la radio, donc on apprend peu à peu la nouvelle du canal.
Ouais.
Mais il faut attendre quelques années, quelques décennies, pour que vraiment le canal rencontre son public. Les héritiers de Riquet vont devenir richissimes. Hein. C'est vraiment les héritiers de Riquet deviennent les personnages les plus en vue de Toulouse. Donc vous voyez, on est vraiment sur des gens très importants.
Et mais quand vous dites qu'il n'a pas rencontré son public, c'est-à-dire qu'il n'a pas été emprunté, ce canal ?
Alors, il a été... Alors, même s'il a mis un petit peu de temps à être connu, il a été très bien emprunté, c'est-à-dire que vous avez beaucoup, beaucoup de trafic qui va passer, mais ce trafic ne structure que finalement assez peu d'activités, alors dans le cas toulousain. Et si vous regardez, dans le cas toulousain, on a ce qu'on appelle une bourse des marchands. Donc une bourse des marchands, c'est un organisme de réflexion économique, et la bourse des marchands dit, il y a beaucoup de marchandises qui passent. Mais ça ne structure pas d'activité, ça s'arrête pas. Donc alors ils disent que les étrangers font passer des marchandises devant eux à leur nez et à leur barbe, mais qu'ils n'en profitent en rien. Et donc, ils sont très énervés.
Ah oui, ça n'a pas participé au rayonnement de Toulouse, en fait, hein?
Alors, ben, si on regarde à l'époque, le port Saint-Étienne, donc le port toulousain, ben, il n'est pas encore relié à la ville. La ville est encore petite. Elle déborde des boulevards actuels, mais elle ne va pas jusqu'au port Saint-Étienne. Et comme on n'a pas de structuration d'activité autour du canal, ben, le port Saint-Étienne reste un petit îlot isolé. Donc vous avez Toulouse, puis un petit bout de campagne, puis le port Saint-Étienne. Et pour que la ville de Toulouse atteigne le port Saint-Étienne, il faut des décennies et des décennies.
Eh ben merci beaucoup Nicolas Marquet pour cette inauguration que vous nous avez permis de revivre du canal du Midi et puis les années qui l'ont précédé et celles qui ont suivi. C'était le 15 mai 1681, l'œuvre de Riquet inaugurée, vous nous l'avez dit, sous le regard suspicieux de l'intendant, canal du Midi hein, qui fait 241 kilomètres et qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Merci beaucoup Nicolas Marquet. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Toulouse Jean Jaurès et vos étudiants ont bien de la chance de vous avoir. Merci à vous.
Merci, très bonne journée.